tous les mercredis, vous savez, c'est la gang d'Institut qui oui. est en studio avec nous à travers habituellement sa porte-parole, Chantal Lheureux.
Neil qui fait toujours rire à chaque
fois. Bonjour Chantal, comment tu vas?
Ça va très bien.
C'est ta dose de rire chaque mercredi
oui.
À l'émission.
J'aime bien les éloges quand tu transmets de part et d'autre. C'est bien.
On a toujours énormément de plaisir à faire oui. cette émission-là. Donc aujourd'hui, tu es avec des invités, mais qui ne sont plus des invités, j'appelle ça des habitués.
Oui, on partait de la famille.
Plus que ouais, tout à fait, donc des collaborateurs. Donc, oui. Ça a l'air vraiment d'un...
Alors Pierre Archambault est avec nous, Robert Loca.
Un mouvement spécial, parce que vous avez été de façon collective voir quelque chose.
Hier soir, nous avons fait un visionnement collectif. Hein? Trois collègues de l'émission, nous sommes allés voir un film, un film qui concerne le grand Salvador Dali.
Wow.
L'excentrique Salvador Dali, bien sûr, connu pour ses débuts avec le mouvement surréaliste parisien, pour ses amitiés, ses grandes amitiés avec le poète Garcia Lorca, le cinéaste Luis Buñuel. Et il réalise d'ailleurs avec ce dernier, en 1929, Un chien andalou. Et Dali, a décidé d'appliquer vraiment à fond la méthode des surréalistes. Alors, il est allé la méthode des surréalistes qui rejettent la pensée rationnelle et veulent libérer le subconscient. Mais, à un moment donné, il va se distancer, puis pour m'en dire davantage, en raison de ses opinions marxistes. Alors, sa peinture nous présente un univers vraiment empreint d'une onirisme, avec des objets du quotidien qui se transforment. Par exemple, Robert m'avait offert, à un moment donné, une montre qui commence à dégouliner. C'est un peu ça. Une montre, des objets déformés par le rêve. Et vraiment, ce sont des objets disposés, transformés, disposés dans des paysages lunaires et désertiques. Alors, Dali, il va devenir surtout une grande vedette, là, quand il va se rendre aux États-Unis en 1940. Et là, il va avoir, grâce à ses multiples collaborations avec, dans le milieu du cinéma, le théâtre, la mode, la publicité, il va notamment participer à un film de Hitchcock. Alors, ça va vraiment contribuer à sa grande popularité. Et il attire aussi, par contre, des critiques mitigées lors de... d'étapes ultérieures, il va commencer à s'intéresser là à la science. Sa peinture va donner plus mystique que religieuse. Alors, je vous présente ce personnage-là parce qu'actuellement, il y a un documentaire sur Salvador Dali au Quartier Latin. Et ce n'est que quelques représentations. Là, ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir ce film-là. C'est réalisé par la Fondation Gala Salvador Dali. C'est titré « In Search of Immortality ». Alors, pour le reste, j'ai une critique à faire sur le film, mais je vais laisser Pierre poursuivre. C'est un film intéressant, mais avec des réserves. Oui.
Oui, ouais. Parce que j'en ai vu d'autres. J'ai vu d'autres réalisations documentaires sur Dali. Et celui-là, j'avoue, d'abord, j'ai vraiment appris presque rien. Il faut dire que j'ai déjà lu
beaucoup.
Une partie de sa vie, qui est le journal d'un génie. Et là, on en apprend beaucoup dans les détails qui ne sont pas du tout mentionnés dans le film.
Parce je pense que c'est important aussi pour nos auditeurs de savoir que la peinture, tu t'y connais.
Un petit peu,
oui. Oui, oui.
Pierre étant étudiant
d'histoire de l'art, faut que tu le mentionnes. Ouais. Oui.
Une chose que j'ai appris, c'est que son père l'a répudié très jeune parce qu'il avait dit des choses pas très élégantes sur sa mère. Et là, le père lui a dit de quitter la maison et même de quitter le village, de ne plus revenir. Mais ça ne l'a pas empêché de revenir et d'acheter trois bâtiments pour que ça devienne sa demeure et son atelier.
Oui.
Et le film est composé par chapitre de mémoire. Je crois qu'il y en a 21 chapitres avec des titres à chacun.
Ça demande une certaine endurance. Hein?
Moi, ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est qu'on voit justement entre les chapitres trois personnes au bord de la mer qui parlent entre eux. On n'entend absolument pas ce qu'ils disent. Ils ne sont pas identifiés non plus. Alors, j'ai trouvé ça invraisemblable. Normalement, dans un documentaire où on met le nom au bas de l'écran des personnes qui sont là, où on les nomme carrément, mais là, non. Qui sont ces personnes-là? Il y a une femme et deux hommes, c'est absolument pas qui ils sont. Alors ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre, disons. Et à un moment donné, il y a une femme aussi qui vient dire que ces gars-là, en fait, qui a stimulé ou qui a engendré le talent de Dali. Là, là, c'est tiré pas mal par les cheveux.
Absolument,
là.
Oui.
Je m'excuse, mais Gala était d'abord et avant tout une femme d'affaires. C'est elle qui s'occupait des affaires de Dali, mais de là à dire qu'elle a stimulé et qu'elle a engendré le génie de Dali, là, non, ça c'est vraiment un peu trop fort.
Mais on peut dire assurément que c'était une grande muse de Dali. Assurément.
Ouais.
Mais, ça, oui. Elle est sonnante presque toutes ses peintures.
Avec un tempérament, un caractère pas très facile.
Il a peut-être été inspiré dans ce cas-là, mais autrement.
Oui. Alors, je sais pas, Robert, des choses à mentionner?
Ben, moi, micro.
Allons-y, donne-moi un micro.
Merci. Mon feeling par rapport à ce film-là, c'est que, on l'a dit au début, c'était commandé par la société qui gère son héritage. Bon. Alors, c'est un peu une hagiographie dans un sens. C'est une vision un peu comme très positive. Mm-hmm. Il y a des aspects, moi, principalement. Il y a toujours quelque chose qui m'a dérangé chez Salvador Dali, je trouve qu'il est génial. Mais en même temps, je me disais, j'aurais probablement pas aimé l'avoir comme voisin parce qu'il n'a pas dû être vivable. C'est un gars qui est très imbu de lui-même, narcissique, enfin, c'est l'impression qu'il me donne.
Excentrique, ouais.
Même que je m'étonne à un moment donné qu'il ait pu avoir des amis aussi à long terme comme Buñuel, je pense qu'il l'a fréquenté longtemps, Manrey, etc.
García Lorca.
García Lorca, oui. Et bon. Ce qui me frappe dans le film aussi, c'est qu'il y a certains aspects de sa vie, comme on disait, qu'on a écartés. Moi, je me suis toujours demandé comment ça se faisait que dans ses jeunes années, il y avait joint les anarchistes, puis les marxistes, puis pour en sortir.
Et là-dessus, tu n'as pas de réponse.
Moi, je me dis, j'ai pas l'impression, je me demande si c'était pas comme une sorte de lubie, enfin, parce que j'ai l'impression que Dali a été daliste toute sa vie.
Ou plutôt, ce serait l'Armand Vaillancourt du Québec, peut-être.
Donc, le
sur toutes les causes.
On a trois comparses en studio, et je vous jure, ils sont hyper animés autour du film qu'ils ont vu pour nous, sur Salvador Dali, et il y avait Robert qui était au micro. Puis il était un peu perplexe par rapport à certaines choses. Je pense qu'il a besoin de nous dire la fin. Là.
Je parlais tout à l'heure de son orientation politique. Je me demandais s'il n'en parle pas dans le livre, d'ailleurs. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, quand il était jeune, il était du côté à gauche, du côté des communistes, mm-hmm. etc. Et à un moment donné, plus tard dans sa vie, il a commencé à faire l'éloge de Franco. On dit, ça se promène pas mal. Là,
c'est bon. Ça, ouais, la balance.
Une chose qui m'a étonné aussi, c'était quand dans le film, c'est qu'on n'a pas parlé du tout. On a mentionné certains grands artistes qu'il appréciait, tout ça, mais on n'a pas parlé de Picasso. Puis Picasso était son aîné de 20 ans, je pense. C'était un Espagnol comme lui, bon. Espagnol, bon.
Un Catalan.
Ou Catalan, Espagnol.
Une nuance forte.
Je me permets de faire
ici
la fusion parce qu'à l'époque, sous Franco, ils étaient tous espagnols. apparemment, qu'il appréciait le travail de Picasso. Par contre, il y a des périodes de sa vie, je pense, où il le voyait plutôt comme un rival. Ça n'a pas été abordé du tout dans le film. Aussi, ses autres manifestations artistiques, il a surtout fait de la peinture, bon, mais la sculpture, les objets de design auxquels il a touché un peu à un moment donné, c'est même pas mentionné, je pense, dans le film. Fait qu'on voit par contre beaucoup de scènes de transformation de la maison qu'il avait achetée. Il a acheté comme une sorte de petite cabane au début, puis c'est devenu. C'est intéressant. D'un sens, de voir comment ça a évolué, puis toujours intéressant de voir l'intérieur de M. Picasso, mais ça prenait peut-être beaucoup de temps dans le film.
OK. Mais de façon le générale, pour l'observateur qui est très peu connaissant, est-ce que le film a une bonne valeur pour apprendre qui est l'homme, quelle est son œuvre, un peu, est-ce qu'on vit un peu dans sa tête, on vit un peu son tempérament? Est-ce que au moins le film a la capacité de nous amener ça pour pas le néophyte, mais quelqu'un qui a un intérêt minimal.
Ben c'est ça que j'allais vers ma petite conclusion finale. Là. Dans le fond, c'est un film quand même qui, pour moi, est intéressant, qui a le mérite de nous faire découvrir les différentes étapes de l'œuvre de Dali. Ça, c'est quand même intéressant. Et son intérêt, ça nous fait découvrir, moi, je ne savais pas qu'il y avait un intérêt, mais démesuré, là, Neil. Démesuré.
Pour
travailler à des projets, travailler à des projets grandioses, hein, comme l'aménagement de sa maison, c'était même pas fini, je pense. Okay. À la fin du film, c'est même pas terminé. À Port-Ligat, en Espagne. Et pour aussi un château du Moyen-Âge qu'il a offert à sa compagne Gala. Ça, il a rénové ça. C'est démesuré le temps qu'il a pu consacrer à ça. Et aussi, il y avait des goûts de luxe extrêmes. Et aussi, il a travaillé à son théâtre-musée à Cadaquès. Hein? C'est ça, Cadaquès? Et ça, je pense qu'il a demandé à mourir devant son musée. Il s'est aménagé un lit devant le musée. Alors, avec la fenêtre vue sur le musée. Alors, écoutez, ça, c'est intéressant, je vous dirais. C'est à voir. Toutefois, le film passe sous silence et ne fait que survoler les amitiés d'importance. Pour moi, il aurait fallu y aller plus en profondeur. Il n'y a pas question de conflit, il n'y a pas question des nombreuses critiques qu'il y a eu à l'endroit de Dali. Et c'est un beau film pour un personnage qui suscitait une polémique. Alors, c'est très questionnant. Et c'est un film dense et un peu long. Mais d'intérêt certain.
On parle de combien de temps à peu près?
Deux heures, mais ça nous a paru plus long. Et c'est donc des représentations ce vendredi 13h. Mais la salle était pleine, il y avait tout plein de monde parce que Salvador Dali continue d'attirer les foules, même bien des décennies après sa mort. Alors, représentation vendredi 13h, 24 octobre, 29 octobre. On n'a pas encore les heures, mais moi, je vais les mettre sur ma page Facebook. Et ça, c'est dans le cadre d'un programme très spécial de films d'art en provenant d'anglais. Là, je pense que ça provient de Toronto. Je ne sais pas si c'est d'où est c'est des films anglais qui sont traduits. On pourra vous informer un petit peu sur la provenance sur ma page Facebook ou sur mon blog. Et le prochain film, écoutez, moi, je quand même, malgré tout, moi, je vais y aller. Ce sera le film sur Klimt et Schiele, Eros et Psyché. Et c'est à partir du 7 novembre. Écoutez, moi, je ne vais pas manquer parce que j'adore Klimt.
C'est... Devrait l'avoir.
C'est une fan.
C'est clair qu'elle est fan.
Et il y a bien d'autres dates derrière. Il y a bien d'autres films intéressants à venir. Là.
Absolument.
Il faut se tenir informé.
Donc, c'est en vedette à la galerie. Mm-hmm. Donc, les représentations sur Dali, il y en a des supplémentaires que... Tu afficheras les dates.
Je vais toujours afficher les dates à venir, là, autant que possible. Mais c'est une galerie de cinéma, bien sûr. Donc, au quartier latin, seulement au quartier latin.
Messieurs et dames, merci beaucoup pour cette petite incartade dans le monde de Dali. Mais surtout, je réalise qu'on aurait pu faire la chronique sans parler du film et parler du personnage et qu'on aurait peut-être eu encore plus de plaisir à le faire.
Oui.
Encore une fois, merci.
Merci, Neil.